tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous. Début de semaine, alors comme chaque lundi, petite bande-annonce du programme, un avant-goût de ce qui vous attend. Et ça commence en version dessin animé.
Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où...
J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise.
T'es sérieux?
Avec notre caravane.
Ouais.
Bah ça te fait pas plaisir?
L'aventure pour moi, c'était pas seulement voyager, c'est pas seulement écrire. Roman, nouvelle, essai, c'est aussi combattre pour les choses auxquelles on croit.
Après le soir et la tempête naisse, des feux que je projette hors de l'atmosphère.
Les gens sont drôles. Ah, c'est tentant, hein, de jouer le vieux monsieur mourant dans sa maison en ruine, tout seul.
C'est vrai que c'est pas drôle de vieillir. Moi, quand j'entends des gens qui disent oh, « ben, ça me fait plaisir de vieillir, maintenant j'ai plus de maturité », c'est de la... Enfin, c'est de la bullshit, comme dirait monsieur Trump, quoi.
Nous ne confrontons pas à cette idée que nous sommes le pays des droits de l'homme et en même temps, désormais, le troisième exportateur d'armes au monde.
Ce message est fort et nous l'avons reçu 5 sur 5.
Alors ce que l'on entend là, c'est le son de Pépite. Pépite qui sera en live jeudi prochain, en live aussi demain avec Clara Isée dans la grande tradition de la chanson française. À ses côtés, la Léa Salamé du Québec, Denise Bombardier, très cash et sans filtre. Aventure et grand reporter, ce sera mercredi avec Véronique de Vigri et Patrice Franceschi. Dans le Énervé la suite, Vente d'armes, un secret français, ce sera demain. Ce soir, on va parler européenne avec Christophe Bourseiller, en marche arrière. Mais tout de suite, direction Venise avec Yvan Calberac et trois scènes cinéma. Non rien avec Laurent Poitrenaud.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi 27 mai, bienvenue au Énervé, le magazine de la bonne double soirée qui commence à 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et ça recommence à l'antenne, comme tout le monde, de 22h à minuit. Ce soir, on prend la caravane direction Venise, ce n'est pas en Italie avec vous, Yvan Calberac, ça c'est pour le cinéma, sorti en salle mercredi prochain pour le film. Vous cartonnez aussi au théâtre avec la dégustation au Théâtre de la Renaissance à Paris et vous signez une série Marjorie avec un nouvel épisode la semaine prochaine sur France 5. Vous êtes scénariste, réalisateur, auteur, metteur en scène, producteur. Vous êtes aussi notre monsieur plus ce soir. Yvan Calberac, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un autre monsieur plus aussi, Laurent Poitrenaud, qui nous fait trois scènes. Le colonel des Zouaves, Un mage en été et Providence, un marathon théâtral dont vous êtes trois fois le centre. Laurent Poitrenaud, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le Énervé la suite ce soir, européenne en marche arrière. Christophe Bourseiller.
C'est joli, non, celle-là, ouais. Le coup de la marche arrière. Ouais, en marche arrière toute.
Ouais, c'était
oui, c'était
titre.
Vous, tout ouais. À fait. Moi, j'aurais dit, faut-il brûler les Européennes? Enfin, quelque chose comme ça, c'est mon style. Alors, les invités, il y aura vous, il y aura moi. C'est une base,
c'est déjà
important,
ça.
C'est capital. Un philosophe, Pierre-Henri Tavoyot. Un historien, Marc Lazare. Un ancien haut fonctionnaire essayiste, Nicolas Tanzer. Et puis, la directrice de Boulevard Voltaire, le site, Gabrielle Cluzel.
Parfait, on a fait l'appel? C'est bon.
Bah, oui,
énervé, c'est parti.
Oui. Enfin, moi, je suis là, en tout cas.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Venise n'est pas en Italie, une comédie un peu road movie en caravane pour vous, Yvan Calberac, avec Benoît Poulvord en chef de famille, on va y revenir. Et puis la dégustation au Théâtre de la Renaissance à Paris avec un Molière qui vous est tombé dessus. Meilleure comédie, on se dit quoi, ça y est? On y est arrivé.
Oh non, je dis rien du tout. On ben se dit merci.
Oui. On remercie ses parents. C'est énorme.
Bien sûr.
Oui, ben, la production.
Voilà, absolument. Non, c'est vrai qu'on vient un petit conte de fées au Théâtre de la Renaissance depuis le mois de janvier. Parce
avec Bernard Campan, avec Isabelle Carré.
Ouais, ouais. Éric Villard.
Ouais, qui est super.
Dans... Olivier de Lavry et Mounir Amamra, une équipe formidable, 5 acteurs magnifiques. Et c'est vrai que cette pièce s'est montée un peu rapidement parce que tout le monde était libre à ce moment-là.
Ah oui, ça, c'est pas facile quand on a en effet. Deux stars, on va dire, du cinéma. Donc, il faut caler les emplois du temps de chacun.
Et ça a tout de suite bien marché. C'est vrai qu'on a eu tout de suite du monde et de plus en plus. Et
pour le Molière, vous aviez préparé un texte?
Non, j'avais rien préparé.
Vous savez qu'on est très mauvais normalement en improvisation. Mais vous en êtes bien sorti. Hein.
C'est gentil.
Ouais, c'est vrai.
J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait assez court. Mais non, franchement, j'avais rien à préparer parce que je suis un peu superstitieux. J'avais été nommé au Molière il y a bien longtemps pour mon premier film. Non, au César.
César, pardon.
César, pour le premier.
Et
film.
J'avais rien eu. J'avais été nommé au Molière du meilleur seul en scène avec Thomas Oliveres pour l'adaptation théâtrale de Venise n'est pas un été. On l'avait pas eu non plus. Donc là, je me suis dit, je prépare rien parce que voilà. Et puis finalement, on l'a eu. Donc c'était magnifique.
Vous êtes un habitué des prix, Laurent Poitrenaud?
Non, je dirais pas ça. Non, je.
Vous regardez.
Prix du syndicat de la critique.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Vous regardez les Molières, les Césars ou vous épargnez
non,
ça
non, non, pas trop.
Pas
non.
Trop, pas plus que non. Ça.
Bah, c'est l'effet de compétition entre des gens qui font le même métier. C'est toujours compliqué.
Laurent Poitrenaud, donc au théâtre aussi avec trois pièces, trois monologues pour une aventure qui a commencé fin des années 90. On va y revenir. Vous vous connaissiez l'un l'autre?
Non, je connaissais le travail de Laurent Poitrenaud, mais c'est la première fois qu'on se rencontre.
Voilà, c'est bien. Merci la radio.
C'est le divorce théâtre subventionné, théâtre privé?
Ah, pas du tout, parce que moi j'adore le théâtre et je vais aussi bien dans le privé que dans le public. Je suis un grand fan notamment du Festival d'Avignon, pardon. Mmh. Mais je vais souvent à la Colline, à l'Odéon, et tout aussi bien qu'à Édouard VII, qu'à la Renaissance ou ailleurs. Vraiment, moi j'ai pas de chapelle.
Et de votre côté?
Non, moi j'ai pas d'avis, sauf que mon histoire c'est le théâtre public.
Le théâtre public.
Je me dis que je suis un acteur du théâtre public.
Jamais le théâtre privé n'a fait appel à vous?
Non.
Alors qu'aujourd'hui, les passerelles commencent à se faire. Hein. On voit même qu'il y a de la programmation style théâtre subventionné dans des théâtres privés. Je pense par exemple au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, qui est à côté de chez vous, ou au Comédia, qui n'est pas très loin non plus sur les grands boulevards.
Il y a des passerelles.
Ouais, il y a des passerelles, mais vous, pas pour l'instant encore.
Non, j'aime bien appartenir à cette famille depuis le théâtre public. Parce que c'est une histoire, c'est la décentralisation, c'est des spectacles, mais c'est tout un champ autour des spectacles que les gens connaissent peu, c'est-à-dire des lectures dans les lycées, les hôpitaux, les EHPAD, et ça me passionne, parce que je trouve que ça fait partie de mon métier.
Voilà. Yvan Calberac, réalisateur, metteur en scène, scénariste, auteur, producteur, écrivain, mais acteur au départ.
Très mauvais acteur.
Ah bon?
Vraiment pas terrible en tout cas. C'est vrai que j'ai commencé en faisant l'acteur parce que j'avais envie d'apprendre. Et puis j'avais aussi déjà en tête de réaliser et mettre en scène. Et je me disais que l'idéal c'était de vivre ça de l'intérieur et d'essayer de comprendre ce métier en l'apprenant un peu.
Et ça a duré combien de temps?
Ça a duré 2 ans. Mais à la fin, ils m'ont proposé d'être assistant mise en scène. Donc,
oui, en effet, ça veut dire que ça voilà. Veut dire quelque chose. Vous ne sentiez pas à l'aise sur un plateau?
Ah si, j'aime bien. Curieusement, j'aime bien être sur scène, mais je sais pas. Peut-être que je me regardais trop jouer à cette époque-là. Peut-être que j'avais comme une sorte de petite caméra qui arrêtait pas de filmer. Et je pense que le métier d'acteur, c'est vraiment s'abandonner. C'est l'instant présent. Et ça, j'y arrivais pas très bien.
Vous comprenez ça, Laurent Poitrenaud? Vous avez toujours voulu être acteur?
Ah oui, et que ça.
Que ça?
Oui, parce que souvent on nous pose la question, est-ce que je voudrais...
Passer à la mise en scène, voilà.
Mais non. Moi je travaille avec des grands metteurs en scène, ils font ça très bien. Parce que des fois quand certains acteurs, grands acteurs, se mettent à la mise en scène, c'est toujours déceptif. Donc puis j'ai beaucoup de choses, trop de choses à apprendre en tant qu'acteur, enfin, je suis loin d'avoir fini quoi, vraiment.
Vous avez jamais souffert quand même sous la direction d'un metteur en scène où vous vous êtes dit, enfin franchement j'aurais préféré être à sa place quoi.
Ah des fois on est meilleur. Ah non, ça c'est autre chose. Ouais. Non, des fois on sait qu'on est meilleur que celui qui est en face, qu'il a moins bien travaillé, qu'il a pas travaillé d'ailleurs des fois. Souvent les acteurs travaillent plus que certains metteurs en scène, ça c'est sûr. Mais c'est le jeu. Et après du coup c'est là qu'il faut être bien outillé. C'est pour ça que par exemple moi maintenant qui m'occupe d'une école au TNB à Rennes, ouais, avec des élèves, j'essaye de leur donner le plus d'outils possible pour justement dans des situations où tu te retrouves un peu en solitude. Eh ben, au moins, tu peux être autonome. Voilà.
Alors, au départ, Venise en Italie, aujourd'hui, donc, c'est un film. Au départ, c'était un roman en 2015, puis un seul en scène en 2016. Il fallait avoir toutes ces étapes pour arriver aujourd'hui au cinéma.
Alors, non.
Calberac.
Franchement, l'adaptation scénique est arrivée totalement par hasard. J'avais demandé à Thomas Oliveres, qui jouait dans mon précédent film, L'étudiante et Monsieur Henri, de lire quelques extraits à la soirée de lancement du roman. Et il était tellement épatant, il faisait tous les personnages, que tout le monde nous a dit « mais faites un spectacle ». Et c'est vrai que ça va parfois plus vite que de faire un film. Donc on s'est regardé avec Thomas, on s'est dit « on fait un spectacle ». Il m'a dit « ouais, allez, on le fait ». Et on l'a fait. Et
c'est vrai. Il était seul en scène.
Il était seul en scène, il jouait tout le monde. Et c'est vrai que c'était une belle aventure. On l'a créé au Festival d'Avignon, off. Et puis après, on l'a repris à Paris, on l'a joué un peu dans toute la France. Donc ça a été assez génial. Et moi, ça a été quand même un pas intéressant pour moi par rapport à l'adaptation cinématographique.
Pour arriver au cinéma un peu plus tard. On va revenir bien sûr sur le film. Trois pièces pour vous, Laurent Poitrenaud. Le colonel des Zouaves de 97, vous aviez joué à l'époque.
22 ans déjà, oui.
22 ans déjà, oui. Hommage en été, c'était à peu près 10 ans plus tard. Et Providence.
Il y a 2-3 ans.
Il y a 2-3 ans. Donc c'est trois textes reviennent sur scène avec vous aujourd'hui. Trois monologues. Le seul en scène, ça vous parle?
Oui, voilà, surtout que c'est une aventure, c'est un trio, hein, c'est ouais. Ludovic Lagarde à la mise en scène et Olivier Cadio, écrivain. C'est une collaboration inouïe. Enfin voilà, moi quand j'ai rêvé ce métier, je me souviens, ma mère disait, mais qu'est-ce que tu rêves de ce métier quand j'avais 16 ans? Elle me dit, bah, j'aimerais bien grandir avec des gens. Bon, bah voilà, j'ai grandi depuis 22 ans avec ces gens, Ludovic Lagarde et Olivier Cadio. Et pour les, puisque ces monologues, je vais les faire, en tout cas, à Bobigny, le samedi et le dimanche, les trois dans la journée.
Les trois dans la journée, ouais, un vrai marathon, quoi.
Un vrai marathon. Et c'est vrai, ce qui est, je pense, assez amusant pour les spectateurs, c'est de voir 20 ans de création artistique, aussi bien l'évolution de l'écriture d'Olivier, de la mise en scène de Ludovic, et puis moi,
et
comme
puis
acteur.
Vous,
qui,
comme acteur, ouais, quand même, qui depuis bouge, le début, ouais, qui a
ça
bougé,
a changé,
ouais, ça a changé.
Oui,
ça
quand même. Bah, on vieillit, quand même, hein.
Le marathon, vous l'aviez déjà fait, de faire les trois spectacles à la fois?
On l'a fait, ça y est, on l'a fait il y a une dizaine de jours, à Reims.
Et alors, ça donne quoi? Vous sortez
j'étais,
de là?
J'avais très 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 peur avant, parce ouais. que en fait c'est comme un ami qui court le marathon m'a dit, mais tu sais, un marathon ça ne se court pas, c'est, tu te prépares à, mais tu ne t'entraînes pas à courir un marathon en le courant, tu le fais le jour même. Et j'ai, voilà, et je savais que je pourrais le savoir que le jour même, et c'est bon, ça s'est passé, donc maintenant je suis plus détendu à l'idée de le faire.
Ah oui, ça ne vous effraie pas encore plus, parce que moi c'est ça, je me dirais, ah non, mais
non, ce qui va être étrange, c'est de le faire deux jours de suite. Ah, ça, voilà.
C'est combien de temps en tout?
Bah, c'est 4h30 de spectacle en tout.
Ah oui,
c'est 1h30 à chaque fois.
1h30 à chaque fois, d'accord.
Donc j'ai 4h15 de texte à peu près dans la tête depuis presque deux mois maintenant, puisque je l'ai fait tourner.
Waouh.
Des textes dans votre tête. On vous a demandé des sons dans votre tête aussi.
C'est vrai. Dites-vous, c'était pas facile comme exercice.
Hein. Ouais, mais vous êtes pris au jeu. On a reçu plein de courriers de votre part pour tous les sons. Alors, le premier, c'est un tube et c'est pour vous d'abord, Yvan Calberac. Alors ce tube, il parcourt tout le film Venise et en Italie. Quand le père, Benoît Poulvord, prend la voiture avec la caravane derrière, il se met à hurler sur cette chanson. Qu'est-ce que ce tube représente pour vous, Yvan Calberac?
Eh ben, il représente quelque chose d'un peu autobiographique.
J'imagine, ouais.
C'est une chanson que mon père chantait à tue-tête quand on partait en vacances. Et j'ai eu envie de
lui rendre hommage.
Voilà, de lui rendre hommage, de la retrouver, parce qu'il y a quelque chose de très joyeux. Et puis j'aimais l'incohérence, parce que c'est ce qui caractérise cette famille, les Chamodo, dans le film, c'est qu'ils partent en Italie et chantent une chanson africaine. Et ça me parle, quand c'est incohérent, je trouve ça intéressant.
Donc c'est marrant parce que je crois que ça faisait partie d'une de mes playlists que je faisais sur des cassettes quand je partais en vacances avec mes parents. Non, mais pour ça, je suis un peu. Voilà.
Donc vous auriez pu être un karaoké géant sur cette, cette chanson.
Non, je ne pas karaoké, mais en tout cas, ça m'a ramené.
Donc cette chanson, vous la connaissez par cœur, toutes les paroles. Vous savez de quoi elle parle d'ailleurs?
Alors non, je ne sais pas de quoi elle parle. Et les paroles sont très difficiles à mémoriser parce que c'est un dialecte. Je ne sais plus ce que disait Benoît, parce qu'il s'y intéressait. Benoît Poulvord, c'est du swahili. Enfin, je ne sais plus ce qu'il nous a dit la dernière fois, parce que lui, il a dû les apprendre forcément.
Bien entendu, oui. Pas que lui, Valérie Bonneton,
et les enfants derrière. Et donc, mais ils les ont tous appris très mal. Hein. C'est très difficile à mémoriser. Hein. C'est par onomatopée. Quoi,
ouais, quand vous étiez enfant, vous chantiez n'importe quoi derrière, j'imagine.
Oui, et même dans le film, hein, c'est pas très grave qu'ils chantent les paroles exactes. Hein. L'important, c'est que le cœur y soit et que Benoît Poulvord casse les oreilles de toute sa famille. En tout cas, dans la première fois.
Et des gens qui prennent en covoiturage, qui sont stupéfaits de voir arriver ça dans la playlist. Pour vous, du cinéma, Laurent Poitrenaud?
Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde!
Écoute, François, écoute.
Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un bout de dimanche, petit goût à la con. Merde!
Une scène d'anthologie dans
Vincent, François, Paul et les autres.
Laurent Poitrenaud, ouais. Qu'est-ce que ça représente?
Bah, c'est Michel Piccoli. Voilà. Je pense que quand on est acteur, on a toujours des phares comme ça dans la nuit. Et moi, Michel Piccoli, ça a été très tôt dans les films du dimanche soir via Claude Sauté, mais cette scène particulièrement. Et puis, je crois qu'avec Michel Piccoli, j'avais la sensation intuitive, parce que le hasard après a voulu que je le rencontre dans la vie, mais que c'était un immense acteur et une personne sans doute inouïe à rencontrer dans la vie. Et alors, parce que quand j'étais jeune, je pensais qu'un immense acteur était forcément une personne humainement absolument géniale. Évidemment, la vie t'apprend que c'est pas forcément le cas. Ça peut.
Ouais.
Et la preuve, j'ai rencontré un jour Michel Piccoli, je me suis dit, oh, c'est possible. C'est possible que quelqu'un qui dégage une telle humanité dans son travail, de colère, de tristesse, de mystère aussi, bah, quand tu le rencontres dans la vie, il y a quelque chose qui se poursuit de ça. Et quand je l'ai vu, j'ai pas été déçu. Et je sais que c'est une réflexion que j'ai pour moi, de me dire, bah, je ne me compare pas à Michel Piccoli, mais en tout cas, qui est le moins d'écart possible entre l'acteur que je peux être et l'homme dans la vie que je suis.
Vous avez rencontré des ordures aussi?
Ça arrive. Et c'est une vraie question troublante quand t'es acteur, ouais, parce que on a la chance de travailler des grands textes, des Shakespeare par exemple, des, ouais, voilà, qui sont des textes inouïs, qui font traverser toutes les âmes humaines et les plus grands sentiments, et tu dis ça devrait te bouger dans ta vie, ça devrait quand même te déplacer un petit peu. Il y a des gens que ça ne déplace pas du tout. Et je me dis, alors, comment ils font ça? C'est incroyable.
Télé générique pour vous, Yvan Calberac. Son que vous auriez pu citer, puisque vous venez d'en parler, Laurent Poitrineau. Et pour vous, Yvan Calberac, oui, donc le cinéma de...
Le cinéma de minuit, ouais, le générique.
C'est... Dimanche soir.
Voilà, c'est ça. Et c'est là que j'ai vu les premiers vieux films que j'avais pas une culture très cinéphile avant de rencontrer le cinéma de minuit et de découvrir ses œuvres, parfois du cinéma muet ou des années 50-60, l'âge d'or d'Hollywood, ou les vieux films, Castle d'or... Enfin, tous ces films-là qui m'ont donné la nouvelle vague. Voilà, moi, je suis devenu très, très cinéphile à partir de la télévision, puis après au cinéma, bien sûr. Mais c'est d'abord la télé, quand j'avais 8-10 ans, qui m'a fait rencontrer d'abord ces œuvres-là.
Et puis c'est une voix géniale. Patrick Brion, hein, c'est ça, c'était,
ouais, Patrick Brion. Ouais.
Ce soir, ce film, 1948. Mais moi, c'était inouï. Rien que sa voix, j'avais envie de. Il aurait pu me vendre n'importe quel film. C'était inouï. Ah ouais, c'est un grand souvenir.
Vous avez un talent d'imitateur?
Non, mais celui-là m'a beaucoup marqué. Non, pas du tout. Mais celui-là
vous faites que ça. Vous faites pas Daniel Gilbert ou d'autres personnes.
Non. Que ça. Il se trouve que celui-là m'a beaucoup marqué. Ouais.
Un bruit pour vous, Laurent Poitrineau. Alors, on dirait une tondeuse à gazon, mais ce n'est pas du tout ça.
Non, c'est une mobilette Peugeot de 1971, je crois, ouais, exactement. Ouais. C'est mon grand-père qui vient me chercher à l'école maternelle. Et la ceinture de sécurité, c'était de mettre les mains sous ses fesses, derrière. Je mettais derrière et je pense que j'avais des bras pas assez grands pour faire le tour. Donc, il me disait, mais mets tes mains sur le siège et je m'assois dessus. Et là, je crois qu'il ne pouvait rien m'arriver, quoi. Comme d'ailleurs, je crois que ma famille m'a guidé. J'ai dit mon grand-père parce que j'aurais pu faire chanter ma mère. Parce que voilà, ma famille, ma sœur, mes parents ont été un socle qui fait que ça m'a fait traverser le feu pour faire ce métier avec une foi et voilà.
Ils ont vraiment été avec vous, derrière vous et
pour
vous.
Plus que ça même. Oui, ils ont été. Je pense que ma mère a tout vu, je crois.
Tout ce que vous avez
tout,
fait.
Je crois même la moindre présentation d'école, ouais. Et je sais que cet amour qui m'a été donné, que ce soit par ma mère, mon père, mon grand-père qui me cherchait, c'est pour ça que j'ai pris la mobilette, je crois que ça m'a aidé à traverser certains moments de ce métier qui est un peu douloureux, quand on manque de légitimité, quand on sait pas, mais il y avait cet amour qui me poussait, qui m'a fait traverser beaucoup de choses, ouais. Ouais, c'est clair.
Quelque chose qui fait écho à votre propre parcours, Yvan Calberac, ou ça a été plus difficile?
Moi, mes parents, ils ont... le film est en partie autobiographique, hein, et donc ça raconte l'histoire d'un ado dont les parents teignent les cheveux en blond, parce qu'ils le trouvent plus beau comme ça.
Ouais.
Et ça, je l'ai vécu, et ça, c'était pas de l'amour.
Ah non, mais c'est dingue. Ah oui, non, mais je pensais que c'était vraiment un coup scénaristique.
Non,
c'est... Ah oui, donc ça, c'est vraiment arrivé.
Ça, c'est vrai.
On va revenir.
Donc ouais, ça, franchement, je n'en suis pas vraiment reconnaissant. Ça m'a pas aidé à gagner de la confiance dans la vie. Mais par contre, ils ont fait plein de choses super. Ils m'ont beaucoup donné le goût du théâtre, du cinéma. Ils m'ont emmené beaucoup au théâtre, c'est ça.
Donc, bah, déjà, s'ils ont fait de vous un faux blond quand vous étiez enfant, le goût du théâtre était déjà là pour vous.
C'est ça, je vous avoue, je ne l'avais pas eu comme ça, mais vous avez raison. Mais c'est sûr que nos premières années, je pense qu'elles sont toujours très marquantes dans notre parcours d'artiste après.
On va se retrouver dans quelques instants à partir de ces deux parcours. Eux, ils ne se quittent plus. The Liminianas, Antoine Newcombe et Emmanuel Seigné, réunis dans un nouveau projet appelé L'Épée.
Tu cherches à me toucher, tu voudrais m'embrasser.
Dreams, le premier titre signé L'Épée avant un album attendu pour l'automne, la programmation bien sûr rêvée de Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Tres, Margarita et un piquet d'eau.
Certo.
Ah bon?
Certo. Ça veut dire bien sûr.
Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu.
Gracias.
Laurent Goumard.
Prego.
Prego tout.
Poulvord, en pleine forme dans votre comédie, Yvan Calberac, Venise n'est pas en Italie, sortie en salle mercredi prochain. Poulvord, vous y avez pensé rapidement pour ce père de famille complètement déjanté?
Alors, pas quand j'ai écrit le roman, hein, parce que j'ai écrit le roman, je pensais vraiment à écrire un roman. Mais dès que j'ai commencé l'adaptation cinématographique, effectivement, c'était un acteur auquel j'ai pensé très rapidement, parce que j'avais envie d'avoir des acteurs qui soient fous naturellement, qui n'aient pas besoin de le jouer. Et avec Benoît Poulvord et Valérie Bonneton, là, j'ai été servi au-delà de mes espérances.
Venise n'est pas en Italie, l'histoire d'une famille, un clan presque, les Chamodos, pour qui rien n'est impossible. C'est leur devise, rien n'est impossible pour les
Chamodos. Impossible n'est pas Chamodo.
Une famille sympa, un peu frappadingue, le père est représentant de commerce. La mère, j'ai pas compris, elle vend des légumes bio, c'est ça?
Enfin, distribue des paniers de légumes bio.
Des paniers de légumes bio, deux enfants, et c'est Émile qui est au centre du film. Émile a 14 ans, il est collégien, un peu bousculé par ses camarades. Il tombe amoureux de Pauline. Pas facile quand on a honte de sa famille qui vit dans une caravane. Pas facile quand on est un enfant que sa mère teint en blond parce qu'il est plus beau comme ça. Pauline va jouer de la harpe à Venise pour un concert. Ni une ni deux, les Chamodos décident d'y aller tous ensemble, au grand désespoir d'Émile. Mais en caravane, au plus grand désespoir d'Émile. Bonne annonce.
Je veux pas vivre dans une caravane toute ma vie.
Un jour, tu regretteras notre vie de bohème.
Oh, pas non. Si ça te tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances.
Carrément, c'est où?
En Italie, à Venise.
De l'argent, moi, je trouve pas sous le sabot d'un cheval.
Je sais, mais j'aimerais trop y aller.
J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise.
T'es sérieux?
Avec notre caravane.
Ouais.
Bah, ça te fait pas plaisir? Tous les chemins mènent à Rome. Et Venise n'est pas bien loin de Rome.
Ah, yeah! Hop, allez, tous ensemble, allez!
Bienvenue chez les dingues.
Juste en face de Venise, il y a un camping, pas cher du tout.
On n'est pas bien ici?
La cuisine à côté?
L'usine, elle pue, mais elle ne fait pas de bruit. Ça, c'était positif. T'as honte de nous? On te convient pas comme parents?
Oui, j'ai honte. Et j'ai honte qu'on soit pas une famille normale.
Mais ça n'existe pas, les gens normaux.
Ça, c'est vrai. Ça n'existe absolument pas, les gens normaux. Et eux, ils se distinguent, les Chamodos, dans ce registre-là. La honte sociale est au centre, en fin de compte, du film, par rapport à cet enfant et ses parents. Un fils qui a honte de ses parents, c'est quelque chose que vous avez vécu, puisque vous parliez tout à l'heure d'une dimension autobiographique pour ce roman et aujourd'hui ce film, Yvan Calberac.
Oui, je pense qu'à 14 ans, on a un fort désir de normalité et on est tous un peu embarrassés par ses parents. On aimerait avoir... en tout cas, moi, je rêvais d'avoir une autre famille. Surtout, je venais d'un milieu pas modeste, mais vraiment classe moyenne. Et je rêvais de vivre dans une grande maison et qu'on ait plus d'argent parce que les fins de mois n'étaient pas toujours évidentes. Donc, oui.
Mais ils avaient un grain, les parents? Parce que dans le film, les parents ont une véritable personnalité. C'était le cas aussi dans votre famille?
Oui, un petit peu.
Ou c'est simplement le problème du milieu social?
Non, ils n'avaient pas un grain, mais c'est vrai que le film raconte ça, l'histoire d'un choc social, parce que, comme par hasard, cet adolescent, il tombe amoureux d'une fille qui, elle, vient d'un milieu bien supérieur au sien. Et effectivement, quand il débarque chez elle, il a une chaussette trouée, il ne sait plus où se mettre. Et ça, ce sont des choses que j'ai vécues, absolument.
Pourquoi votre famille cherche à vous teindre en blond? Parce que vous nous avez dit ça, moi je pensais que c'était un truc scénaristique. Hein.
Ah, pourquoi à l'époque?
Ouais.
Eh bien, l'argument, c'est qu'effectivement, ils me trouvaient vraiment plus beau comme ça.
Et vous étiez plus beau en blond?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'était dans leur tête. Moi, j'ai mis longtemps à me demander pourquoi. Mais en fait, je pense que mes parents, ils rêvaient un peu d'enfants parfaits. Ils avaient en tête les enfants de Claude François. Enfin, c'était assez bizarre. Eux, ils ont. Je pense qu'on a tué ses enfants souvent avec des mécanismes compensatoires par rapport à ce qu'on avait tué. Par exemple, mon père, on l'a oublié à l'école maternelle. Sa mère a oublié de l'instruire en primaire. Donc, il a eu un an de retard toute sa vie. Ben, moi, ils m'ont fait sauter une classe. Ils m'ont instruit un an plus tôt à l'école. Donc, je pense que. Et d'ailleurs, si tu racontes le film, moi, ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie.
Non, bien sûr. Ouais.
Mais ce qui m'intéressait, c'était de parler de l'éducation, cette teinture de en blond, elle est pour moi une sorte de métaphore de bien des éducations. On a du mal à accepter ces enfants tels qu'ils sont. On a un sportif et on voudrait un littéraire. On a un musicien et on voudrait qu'il soit musicien, l'enfant ne l'est pas du tout. Souvent, on a des projections, des attentes très inconscientes. Et même l'éducation nationale. Je trouve qu'on est dans un monde qui a du mal à aider les êtres qui arrivent à se trouver eux-mêmes et on leur demande plutôt de se formater, de s'adapter. Et ils perdent le contact avec qui ils sont vraiment.
Ça veut dire que vous êtes construit contre ce que vos parents voulaient pour vous ?
Ah oui, moi, ils m'ont fait faire des maths pendant 5 ans, 6 ans après le bac. Alors que j'étais littéraire, j'écrivais des poèmes, des nouvelles. Donc oui, je me suis construit totalement contre. Après, ça ne m'empêche pas d'être totalement...
Ah ben, super fort en maths, j'imagine, mathématicien. Oui, une formation de mathématicien.
Oui, j'ai fait un DE en maths pur.
Ah ouais, quand même.
Oui, j'étais
assez... Mais vous ne trouviez pas la force de dire non ?
Alors, je l'ai trouvé peu à peu, et surtout, il y avait un deal, c'était on te finance des études, que si tu fais des maths, et comme moi, ne venant pas d'une famille d'artistes, j'osais pas du tout m'imaginer vivre un jour de ça. Donc, ça a été un lent processus. En plus, comme je vous ai dit, j'ai eu mon bac à 16 ans, donc à 17, 18, 19 ans, c'est difficile de se projeter. Et donc, c'est à 21, 22 ans que j'ai commencé à faire ce dont j'avais envie. Et quand j'ai dit à mes parents, finalement, je vais faire des études de cinéma, ils m'ont répondu, bon, tu fais comme tu veux.
C'était aussi simple que ça.
Voilà, non, pas vraiment, mais ils ont abandonné, quoi.
Vous comprenez ça, Laurent Vautourneau ? Vous avez vécu complètement différemment.
Oui, moi, il se trouve que mon père et ma mère faisaient, mon père était postier, ma mère était secrétaire dans une usine de porcelaine, mais la vraie vie était quand même un peu ailleurs. C'est-à-dire que le week-end, ma mère répétait des opérettes avec son groupe amateur et mon père, c'était plutôt chansonnier. Et je sais pas, quand t'es enfant, tu vois bien, même s'ils étaient très heureux dans leur métier.
Ah mais, oui, ça n'empêche pas,
mais, justement. Je voyais bien que la joie était quand même plus présente le week-end que voilà, et donc du coup quand moi je leur ai dit que je voulais être acteur, ça a été plutôt genre comme un prolongement d'eux, quelque chose qu'ils avaient pu faire qu'en amateur, et quelque chose au contraire, bah oui, vas-y. Donc moi j'ai été mais surboosté, en plus comme j'ai une sœur un peu plus âgée que moi qui elle-même m'a emmené au théâtre très tôt, donc là, je dis souvent ça parce que ma sœur m'a emmené voir les premiers spectacles que j'ai vus, c'était Chéreau, Bob Wilson, et en même temps moi je connaissais l'Auberge du Cheval Blanc, donc je suis un savant mélange de Bob Wilson et l'Auberge du Cheval Blanc, quoi, par exemple, donc ce qui est un cocktail intéressant.
À partir de quand vous avez su justement que vous vouliez partir du côté de la scène, puisqu'au départ vous étiez comédien, Yvan Calberinck?
Alors j'ai été comédien, mais mon envie ça a toujours été de raconter des histoires. Dès l'âge de 10-12 ans, j'écrivais des nouvelles. Je pensais jamais en vivre. Mais et c'est vrai que j'ai commencé à être élève comédien parce que ça me titillait aussi et que j'avais envie d'expérimenter ça. Mais j'ai jamais vraiment rêvé d'être comédien. C'était pas ça mon rêve. Mon rêve, c'était de raconter des histoires.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment prolifique. C'est-à-dire auteur au théâtre, romancier, metteur en scène, réalisateur, producteur, scénariste aussi pour la télévision. C'est-à-dire qu'il faut occuper toutes les places.
Ben, je sais pas, c'est pas qu'il faut, c'est que ça se fait comme ça et que j'ai un élan. Et le roman, par exemple, ça a été suite à une rencontre avec une éditrice qui avait vu L'étudiante et Monsieur Henry.
D'accord, le film,
ouais. La pièce, c'était à la pièce.
Ah, c'était la pièce.
À l'époque. Oui. Et elle m'a dit, tu veux pas écrire un roman? Moi, j'avais écrit un premier roman à 20 ans quand j'étais en fac de maths. C'était une sorte de rêve d'écrire un roman. Donc je lui ai dit, si, j'ai une idée. Et voilà, et c'est parti. J'ai écrit Venise des passants italiens en roman. Mais en fait, en même temps, j'avais l'idée d'en faire un film. Mais c'est vrai que, bon, voilà, quand les choses, ce sont des opportunités. Et puis, moi, j'aime bien travailler, j'adore ce que je fais. Donc, je me suis pas limité. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal.
Alors, bien sûr, moi, j'ai regardé Venise n'est pas en Italie, en écho à ce que j'ai pu voir au théâtre, la dégustation, puisqu'on avait reçu ici Bernard Campan. Et je me suis dit que dans les deux cas, même si les histoires sont complètement différentes, n'ont aucun rapport, il y a quelque chose quand même qui traverse les deux œuvres. C'est la confrontation des milieux sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, dans la dégustation, il y a bon, un type qui a un magasin, hein, et puis de l'autre côté, il va prendre en stage un mec qui appartient à un autre milieu social, auprès de justice, etc. Et là, pareil, il y a cette confrontation entre deux milieux sociaux, milieu, on va dire, populaire, milieu très classe moyenne, et puis d'un autre côté, milieu d'artistes extrêmement, extrêmement friqués. C'est véritablement au centre de tout votre travail, cette question-là.
Oui, c'est vrai que j'aime bien raconter des histoires, hein, de gens qui sont très différents, qui auraient peut-être pas dû se rencontrer et voir ce qu'ils ont à se raconter. Parce que ça m'intéresse, parce que peut-être il n'y a pas assez de dialogue dans la société entre les classes sociales. Parce que ces classes sociales, en fait, elles sont encore très présentes, mais souvent un petit peu immergées, on ne les voit pas bien. Et oui, j'aime bien faire dialoguer des gens comme ça, d'univers radicalement différents. Les faire se parler ensemble, et parce que je rêve d'un monde où on se parlerait plus ensemble.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir trahi votre classe avec le succès que vous rencontrez à la télévision, au théâtre, au cinéma, comme artiste?
En aucun cas, je suis tout à fait en paix avec la classe dont je suis issu. Ça a mis du temps, mais voilà, aujourd'hui, c'est ce que raconte le film, c'est que j'aurais pas voulu une autre famille, que j'adore ma famille telle qu'elle est. D'ailleurs, elle est pas
comme
dans le film, bien sûr. Et aujourd'hui, bon, j'ai pas l'impression d'appartenir à une classe sociale particulière. Je vis confortablement, et ça, c'est génial. Plus confortablement que quand j'étais petit, mais après, venant d'une classe sociale modeste, voilà, dans le milieu artistique, on croise un peu toutes les classes et tout se mélange et c'est ça qui est riche et agréable.
Alors c'est ce que l'on peut voir dans Venise n'est pas en Italie, sorti en salle mercredi prochain. Marjorie, c'est à la télévision, ce sera le 5 juin sur France 2. La dégustation, c'est au Théâtre de la Renaissance à Paris, jusqu'à Extinction.
Non, on joue jusqu'à fin juin.
Jusqu'à fin juin, bah, peut-être avec une reprise, imagine, on à la rentrée, avec peut-être un autre casting.
Plutôt l'année d'après, parce que les comédiens sont occupés. Mais on part en tournée avril-mai-juin 2020.
Vous restez avec nous, Laurent Poitrenaud et bien sûr Yvan Cabérac. Tout de suite, c'est le questionnaire 100% France Inter.
Et maintenant, le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous.
Vous savez, ça c'est normal. Mais tellement rare aujourd'hui.
Un questionnaire rien que pour vous, Yvan Calberin, c'est le questionnaire 100% France Inter, avec des questions des stars de la chaîne qui ont déjà servi, elles ont déjà été posées, on les recycle, on est éco-responsables nous aussi. Trois questionnaires, vous choisissez le vôtre, avec des titres qui sont en écho à votre propre travail. La dégustation, On va s'aimer et Trop de chance.
La dégustation.
Première question, Augustin Trapenard.
Quel genre de film est-ce que ce serait votre vie, tiens ? Comédie romantique ? Une success story ?
Eh bien, peut-être un mélange des deux, allons, on va dire. Non, en ce moment, c'est vrai que les œuvres marchent très bien, ouais. Donc c'est très agréable. Mais en même temps, moi, ce qui m'importe le plus dans la vie, c'est effectivement ce que je vis dans mes émotions, dans ma vie privée, enfin, tout est aussi important. Donc, je crois qu'on vient sur Terre pour aimer. Donc,
on va s'aimer, oui. C'est voilà. Le titre aussi. Pour vous, Laurent Poitrenaud, ce serait quoi le film de votre vie?
Ah oui, c'est moi, c'est aussi pour les questions.
Ouais,
bah,
pourquoi
moi.
Pas, ouais.
Quel titre?
Une comédie romantique.
Une comédie romantique, surtout un film qui se termine très très bien, parce que depuis le début, j'ai une chance inouïe.
Tous les deux, vous avez ça en commun. Deuxième question, Léa Salamé.
Comment pouvez-vous rassurer le cinéma français?
Ils sont morts de rire tous les deux.
Comment je pourrais rassurer le cinéma français? Alors là, j'ai aucune idée. Hein. Moi, j'adore le cinéma français dans sa diversité. J'ai habité à New York quand j'étais étudiant. Le cinéma français me manquait affreusement. On se plaint, on tire sur le cinéma français, mais il y a une diversité des films de Cannes, surtout comédie grand public. Moi, j'aime tous les genres et j'en suis très très heureux d'en faire partie. Donc j'aurai un discours, je dirais au cinéma français, rends-toi compte, en fait t'es super.
Troisième question, encore Augustin Trapenard.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi un métier dans lequel on s'expose constamment au risque de l'échec?
Ça sera valable pour les deux d'ailleurs. Oui, Yvan Calberac.
Non, vas-y, je t'en prie, c'est ton questionnaire.
Alors, c'est une bonne question. Je le vis pas comme ça, en fait. Pour moi, ce métier, c'est une occasion de parler, de développer un dialogue avec les gens, de leur proposer de passer des moments et de peut-être essayer de les nourrir d'une certaine manière. Et je le vis pas comme une exposition permanente, même si elle en fait partie. C'est pas ça mon moteur. Mon moteur, c'est de raconter des histoires et je crois beaucoup en l'effet cathartique des histoires, peut-être pour élever le niveau de conscience, pour semer des graines, voilà.
Et vous, Laurent Poitrenaud?
Comme acteur, c'est sûr qu'on est exposé. Donc,
ouais, à l'échec.
Voilà. Alors, oui, à l'échec.
Elle a réussi, bien sûr.
Oui, parce que c'est le rapport à l'échec, il est tellement...
Vous l'avez vécu?
Oui, mais ça dépend de quel point de vue on se place. Et, par exemple, il y a des spectacles qui ont pu être mal reçus, mais je sais qu'ils ont été très, très, très importants pour moi dans ma carrière. Et voilà. Après, au début, tu lis par exemple beaucoup les critiques parce que t'as tellement peur qu'on t'aime pas et est-ce que t'es légitime à faire ce métier que tu les lis. Et ça peut t'abîmer très fort. Vraiment, très violemment. Donc maintenant, je sais que je les lis plus, par exemple. Alors après, je ne dis pas que la critique doit pas exister sinon tu fais pas ce métier pour t'exposer.
Bien sûr.
Mais chacun chez soi.
Fait son métier.
Parce que sinon, je sais que ça a pu m'abîmer sur des spectacles de lire certaines choses injustes ou violentes qui fait que tu l'emmènes. Le problème, c'est qu'après, tu l'emmènes le soir. Amine, quand t'as fait le film, c'est fini. Mais le soir où tu joues au théâtre et tu ramènes le petit critique avec toi près de toi, qui dit du drame, je t'ai écrit ça à ce moment-là, tu vois. Et là, il sera toujours là. Donc là, chacun chez soi. Et c'est très bien et c'est super.
On va vous retrouver justement chez vous, ici, dans le studio 621. Dans quelques instants, Laurent Poitrenaud, tout de suite. Je vous propose d'écouter Loudoyon. Elle sera de tous les festivals cet été ou presque pour défendre son dernier album, Soliloquy. Too much, Loudoyon, dans le NRV.
Pacing up and down this corridor, waiting for you.
to swing open the door. Is there something that I'm missing? Or is it too much that I'm showing? I know some sir, find the way but me as I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. There must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together. In an eight I'll give away. Yes, in an eight I'll give away. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. You can see me come a mile away. You can see me come a mile away. Or you can see me come a mile away. 'Cause I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing? Or is it too much that I'm showing? I know some say, find the way, but me, I say, come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us.
Too much, Loudoyon, dans le énervé.
La chute a lieu relativement vite. Il suffit de regarder ailleurs un instant. L'œil fait un lent virage dans le ciel et la saison change.
Le nouveau rendez-vous.
On est l'été.
Laurent Goumard.
On déjeune dehors. Grande table et fauteuil du salon. Nappe et vin glacé. La caméra tourne en s'élevant. La grue frôle la façade et s'enfonce dans les cimes. Et c'est déjà l'automne. Elle redescend. On a froid. La lumière est blanche, ils sont tous partis, c'est l'hiver.
Que faire ?
Sur France Inter.
Un entretien. Que faire ? Un entretien avec vous, Laurent Poitrenneau. C'est un extrait de Providence, une des trois pièces que vous jouez. Trois monologues signés Olivier Cadieux, avec chaque fois la mise en scène Ludovic Lagarde. Alors il y a Le Colonel des Zouaves, Un mage en été et Providence, on va y revenir. Le Colonel des Zouaves a été créé en 97. 22 ans plus tard, vous remettez le couvert pour ce qui est devenu un marathon théâtral. C'était quoi l'idée ? C'était de retrouver vos copains, Cadieux, Ludovic Lagarde. Parce que vous vous connaissez depuis combien de temps en fait ?
Bah, Ludovic Lagarde, on a démarré le théâtre ensemble comme élève. Donc maintenant, on a dépassé nos 30 ans, là. Donc là, ça y est, ça commence à faire une vraie histoire. Et puis, Olivier est arrivé, pas très longtemps après, 4-5 ans après. Donc, Olivier, ça fait 25 ans. Donc, c'est inouï d'avoir cette fidélité.
Vous n'étiez pas au conservatoire ?
Non, moi, j'ai raté les grandes écoles.
Je vous félicite.
Je sais pas, en tout cas.
Vous l'avez vécu difficilement, au départ ?
Sur le moment, oui, bien sûr. Mais à l'époque, moi, il n'y avait que trois grandes écoles qu'on pouvait tenter. Maintenant, il y a Strasbourg, Paris, et puis la Rue Blanche à l'époque, et maintenant, il y a Lyon, l'ENSAT. Et puis, maintenant, il y a des grandes écoles. Je participe de la promotion là, du TNB à l'école de Rennes. Donc, il y a d'autres écoles supérieures. Mais moi, à l'époque, il y en avait que trois. Et je les ai ratées. Voilà.
Vous savez pourquoi ?
Bah non, on ne sait jamais trop pourquoi. Alors, sur le moment, c'était plutôt un. une tristesse. Et puis maintenant, c'est plutôt une fierté.
Ah bah ouais.
Enfin, une fierté au sens, pas « Ah bah, je m'en suis sorti sans eux », c'est pas ça. Mais c'est surtout, je pense que je n'aurais pas vécu la vie d'acteur que j'ai vécu si j'étais passé par ces réseaux qui m'auraient sans doute mis dans un rail beaucoup plus classique.
Alors, quelle était l'école dans laquelle vous avez rencontré ?
Théâtre en Acte, qui est une école privée à l'époque. On a fait la première promotion avec Ludovic Lagarde. On a participé à cette première promotion qui était rue Oberkamp, à l'eau du Café Charbon, pour ceux qui connaissent. Et c'était une petite utopie, voilà, qui a duré une dizaine d'années et qui est une sorte de mini Théâtre National de Strasbourg, enfin école, où il y en avait de l'aïkido, du chant, des cours de classique, des cours de scène, des ateliers de 3 mois avec des metteurs en scène, des acteurs. Enfin, c'était assez très très ambitieux comme école. C'était dirigé par Lucien Marchal et voilà.
Aujourd'hui, donc, vous reprenez Le Colonel des Oeuvres, qui a été une pièce importante dans votre parcours. Ça vous a donné une énorme visibilité. J'imagine aussi une grande assurance en tant qu'acteur. Ça représentait quoi, cette pièce, pour vous? Qu'est-ce que ça a débloqué à la fin des années 90, alors que vous avez commencé au début des années 90?
J'ai 30 ans quand je le joue, donc ça fait 6-7 ans que je suis sorti de l'école. Je suis encore jeune acteur, en fait, à l'époque. J'ai jamais fait de monologue, donc j'avais un peu l'anxiété de l'exercice. Ouais. L'écriture d'Olivier est particulière, et à l'époque, moi, Olivier, on n'est pas encore amis comme on est maintenant. On est à la fois artisan et ami maintenant.
Surtout qu'au départ, c'est un roman. Hein. Les pièces d'Olivier Cadio, au départ, sont des...
C'est pas un auteur de théâtre. Voilà. Je crois que notre collaboration tient aussi sur le temps grâce à ça. C'est que chacun reste dans son champ. Ludovic dans la mise en scène, Olivier du côté du roman, de la poésie, et moi du côté du jeu. Et puis chacun travaille, et puis on se retrouve. Et on va chercher les textes d'Olivier pour en faire du théâtre. Et Olivier est un auteur incroyable, puisque c'est quelqu'un qui peut te dire, ça serait lui qui voudrait tout couper, par exemple, dans les adaptations. Donc, mais couper plus, ce qui est incroyable pour un auteur. On n'a pas trop cette habitude-là.
Mais généralement,
c'est plutôt sanctuarisé. Ouais. Et lui, il y a quelque chose où il sait très bien que ce qu'on aura besoin au théâtre pour dire son texte, ce sera pas la même méthodologie pour le livre.
Alors, quel acteur vous étiez à 30 ans, avant et après? Parce qu'il y a eu un avant.
Ouais, il y a eu un avant après. Ouais. Ouais.
Alors, avant, vous
j'étais un acteur inconscient. Voilà, je dirais ça comme ça. Parce que, en fait, il y a eu l'écriture d'Olivier, bien sûr, la rencontre, et puis une autre rencontre qui a été fondamentale.
Ouais. Odile Duboc. Bravo. Odile Duboc était une chorégraphe. Que j'adorais.
Bah,
c'était
ouais,
une grande chorégraphe qui faisait partie de la danse d'auteur des années 80. Et qui a participé à la pièce.
Tout à fait.
Et donc là, elle a débloqué quelque chose chez vous.
Ce qui était beau, c'est c'est une immense pédagogue. Et elle n'a pas voulu me transformer en danseur. Elle m'a pas chorégraphié, parce qu'il n'y a rien de geste qui vient d'elle. Mais on s'est posé 8 jours. En plus, le hasard veut que c'était quand même mon premier spectacle de danse contemporaine que je voyais de ma vie à 16 ans. Donc, je l'ai retrouvé 30 ans plus tard, presque 15 ans plus tard. Et en fait, on s'est enfermé 8-10 jours, et elle m'a donné tous les outils qui lui semblaient utiles qu'elle avait comme danseuse pour moi, acteur. Et en me disant, il faut que ça puisse te servir après. Donc, elle m'a donné une sorte de boîte à outils. Ben, moi, j'avais pas de corps avant elle. C'est-à-dire que ça suivait, quoi. Je sais pas comment dire. J'avais pas de conscience de mon corps. Là, je peux pas le montrer. Je suis à la radio, mais un bras, c'était un bras, quoi. Elle me dit, mais non, un bras, il y a plusieurs articulations. Il y a une épaule, il y a un coude, il y a un poignet. Et tout ça, tu peux l'articuler, tu peux l'affiner. Et toute cette prise de conscience, c'est comme si elle m'avait développé une conscience à la fois de l'intérieur. Je peux voir mon corps de l'intérieur, mais également, comme les journalistes embarqués dans les chars d'assaut. Ouais. Ouais. Et puis en même temps, je suis avec un journaliste qui est lui également dans un avion au-dessus du tank. C'est-à-dire qu'il peut voir à la fois dedans, je peux voir à la fois dedans et dehors, au-dessus de moi. C'est ça qui est incroyable. Et d'un coup, elle m'a développé cette conscience de l'espace, de c'est quoi les places les plus fortes dans un espace pour un acteur, pour parler, pour parce que des fois tu peux être génial, mais si t'es pas au bon endroit,
ça
ne sert à rien. Et elle m'a développé toute cette conscience-là. Le choix aussi, de choisir, d'être toujours dans... Et je pense pour un acteur, c'est important de choisir, quels que soient les textes, les moments sur le plateau, de faire ça ou pas ça, mais de choisir, de pas se laisser... bercé comme ça.
Pour Le Colonel des Oeuvres, il y avait un dispositif spécial.
Tout à fait. Parce que c'est vrai que, en fait, Le Colonel des Oeuvres, ça a été important pour nous trois et pour tous les collaborateurs qui ont participé, parce que c'était comme un creuset sur lequel on travaille encore. C'est-à-dire, il y a eu la voix sonorisée qui est arrivée aussi. Le micro à chef, qui à l'époque n'était pas, maintenant c'est plus courant, mais, et surtout, et même maintenant, il n'est pas utilisé tant de fois de la manière dont on l'utilise, qui est vraiment un outil en soi, comme une partition musicale, puisque c'est Gilles Grand qui est aux manettes, qui est un compositeur qui me suit encore, 22 ans plus tard, et donc c'est un faux monologue. Et
donc vous n'aviez pas besoin de porter la voix?
Non, parce que l'écriture d'Olivier va très rapidement. Et la voix sonorisée permet d'aller très vite. Alors que si je dois un peu plus articuler pour me faire entendre du fond de la salle, il y a quelque chose qui ralentit le débit, qui fait qu'il y a quelque chose de la multiplicité de la langue, de la rapidité, de la fluidité de la langue, des images qui nous envoient au visage comme ça, de manière comme un feu d'artifice, que la voix sonorisée me permet d'avoir. Il faut pas croire, contrairement à ce que certains amoureux du théâtre pensent, parce que maintenant, les acteurs ont besoin de micros pour parler. Le micro est un faux ami. C'est-à-dire que c'est très, très compliqué de travailler au micro à chef. C'est comme une caméra, d'une certaine manière, qui vient te chercher très, très près.
C'est un gros plan pour la voix.
C'est comme un gros plan pour la voix. Et donc, si t'es pas au bon endroit, c'est un gros plan où tu n'es pas au bon endroit. Donc, ça demande extrêmement d'attention, de tonicité et de concentration. Ouais.
Et alors sur scène, le dispositif scénique, c'était ?
Eh bien, c'est que je ne bouge pas. Ouais. C'est que je suis sur, enfin, je suis dans l'espace de 50 cm de mes pieds et je suis statique. Enfin, statique, c'est relatif parce que je bouge beaucoup. Mais dans cet espace-là, extrêmement contraint. Qui était une manière aussi, c'est vrai qu'Olivier Cadio, il a une telle capacité à rendre compte d'images extrêmement précises et rapides. On peut être dans les plis d'un tapis, puis après dans le ciel, mais dans l'espace d'une phrase. Que moi, comme acteur, j'étais battu, quoi. Quand bien même j'aurais voulu l'animer. Et donc, il fallait faire confiance au texte. Et le texte qu'allait produire les images. Et donc, pour moi, il fallait que le corps soit concentré et accueille ces images et que je puisse les rendre de manière juste par un, je sais pas, un doigt qui se déplie, voilà. Et que les gens puissent se faire leur film aussi à eux. C'est très cinématographique. D'ailleurs, ce qu'on a entendu, c'est oui, le plan de Providence. C'est vraiment le film Providence. C'est avec la caméra à la fin du film, voilà.
Ça vous inspire quoi, Yvan Kalberinck?
Ben ça m'intéresse, ouais. Ça me passionne.
Ouais, moi, ça a été vraiment une date hein, dans l'histoire du cinéma, du théâtre français.
Ouais. Oui, j'ai envie de le voir. Du coup, je vais essayer de venir.
À la MC 93.
Oui, ouais. Oui, carrément. Venise n'est pas en Italie. On l'a fait en monologue aussi. C'est un roman à la base, donc il y a un trajet similaire. Là, pour le coup, c'était un road movie au cinéma, mais au théâtre, forcément, on a essayé de trouver des solutions. Mais ouais, ça me passionne.
Et alors, 10 ans plus tard, vous remettez le couvert avec Hommage en été. Et à ce moment-là, quel acteur êtes-vous devenu 10 ans plus tard? Parce que c'est, en fait, ces trois pièces, c'est presque un documentaire sur votre parcours de comédien.
De comédien, Laurent et puis Potreneau. De metteur en scène et d'auteur. Enfin, c'est ce trio quand même incroyable que Ludovic Lagarde a quand même eu l'intuition de former. Parce que c'est quand même lui qui a eu l'idée que cette écriture d'Olivier pourrait s'entendre sur un plateau. On a un lien très étrange avec Olivier. C'est qu'il a chaque monologue, parce qu'on a fait d'autres spectacles autour.
Oui,
il
n'y
a pas
sûr.
Eu que des monologues. Ouais. On a travaillé avec d'autres camarades. Mais il se trouve que chaque monologue correspond à une étape d'acteur de mon parcours. C'est-à-dire que ce qu'il cherchait dans son écriture correspondait à moi, à des réflexions que j'avais. C'est-à-dire que le colonel, c'est quelqu'un qui est quand même à fond tout le temps. À 30 ans, j'étais à fond tout le temps. J'étais un acteur qui allait à 300% en permanence. L'idée d'être subtil, il n'a même pas le temps d'y penser, quoi. Et puis, 15 ans plus tard, je chantais bien que je ne pourrais pas être comme ça. Si je voulais faire ce métier, parce que je rêve de faire ce métier jusqu'à 90 ans, je ne pourrais pas le faire comme ça. Donc, il fallait que je trouve une détente. Et en fait, c'est exactement la question du majeur.
Ouais.
Comment se détendre? Alors, lui, c'est plus large avec la grande histoire, la petite histoire qui nous traverse, toutes ces images qui nous habitent. Mais donc, ça correspond exactement à ma problématique. Et puis, Providence, qui est arrivé encore un petit peu plus tard, où là, je me posais une autre question, ça faisait quand même presque 20 ans que je jouais, 25 ans. Et c'est étrange quand même comme métier. En fait, au début, on se rend pas compte que c'est un métier étrange, mais c'est étrange de parler avec autant de mots qui nous appartiennent pas, de prendre des visages, autant de visages qui nous appartiennent pas, des pensées qui nous appartiennent pas. Au début, c'est très rigolo, mais après, au moment, c'est un peu bizarre quand même. Et je me disais, mais si j'avais pas dit tous ces mots, si j'avais pas pris tous ces visages, ça aurait été quoi ma vie? J'aurais été qui, en fait? Et Providence, c'est exactement ça. C'est comme un artiste qui se retourne sur sa vie et d'un autre point de vue, voilà. Et donc, c'est très troublant, ce lien qu'on a où c'est comme si Olivier me permettait en direct de faire un état des lieux de moi, acteur, à ce moment X.
Dans votre parcours, il y a eu du théâtre, beaucoup, du cinéma, un petit peu aussi, plutôt pas mal d'ailleurs. Et dans le théâtre, très peu de classiques. Mais il y a eu l'avare. Ouais. Ça a été difficile pour vous?
Non, c'est arrivé au bon moment. Surtout qu'en plus, c'était Ludovic Lagarde qui me le proposait.
Exactement.
Et d'ailleurs, j'ai eu un petit moment de blanc, parce qu'avec Ludovic, on a 95%, on a monté que des auteurs contemporains, ou des textes contemporains, ou des textes qui n'étaient pas faits pour la scène.
Mais vous résistiez au rôle classique?
Non, je résistais pas. Des fois, on me pose la question, mais alors, pourquoi vous avez fait autant d'auteurs contemporains, et en fait, je ne t'ai jamais posé la question, parce que je réfléchissais pas comme ça. Moi, j'allais vers les gens qui avaient envie de travailler avec moi, puis ça me passionnait et tout. Mais après, en réfléchissant, je me dis, mais je pense que quand j'étais jeune comédien, par exemple, je crois qu'on savait pas où me mettre. C'est-à-dire, j'étais pas un jeune premier, j'étais pas un rigolo non plus, j'étais pas un scapin, j'étais pas Hippolyte, enfin bon. Et puis moi, les personnages classiques me paraissaient tellement comme un musée dans lequel il fallait aller faisant des ablutions, puis je sais pas, enfiler un costume qui était trop grand pour moi, puis je sais pas, puis il fallait correspondre à des grands acteurs qui étaient pas... Donc peut-être que moi-même, je n'arrivais pas à me projeter, et du coup, les gens n'arrivaient pas à me projeter. Et du coup, quand on m'a proposé très tôt des textes de Beckett, des textes de Michel Léris, l'Afrique fantôme, enfin, pour monter sur le terrain, enfin, que des objets. En fait, c'est un peu comme quand on est au ski, d'une certaine manière, et on peut faire ses traces dans la neige. Vous voyez, c'est complètement blanc. Personne n'est passé par là. Et alors que bon, évidemment, Hippolyte, beaucoup de gens sont passés par là.
Quoi. Et l'avare aussi.
Et l'avare aussi. Mais l'avare, c'est arrivé plus tard. Alors qu'elle est... Et du coup, je crois que je suis allé vers les textes contemporains parce qu'en fait, j'avais tout à inventer avec mon corps, qui était un peu bizarre. On me renvoyait souvent mon corps un peu bizarre. Ah, t'as des grands bras. Mais une fois qu'on m'avait dit ça, on m'avait rien dit. Heureusement, Adine, un jour, tu peux faire quelque chose de ces grands bras.
Mais vous avez des aussi grands bras que ça?
Mais
ils tombent jusqu'où? Ah,
oui,
c'est vrai qu'en fait.
Oui, quand même. Oui, là, je les replie, sinon je les mets en version replie.
Mais, comme un albatros.
Oui, comme un albatros. Et grâce à Odile, j'ai pu me dire, ben non, c'est un outil possible. Ouais. Et en fait, ce corps, cette voix, d'un coup, j'ai pu les mettre au service de tests qui étaient vierges, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a passionné et qui m'a permis de faire l'acteur. Du coup, quand j'arrive sur l'Avare à 50 ans, ben, je me pose plus la question comme ça. C'est que moi, je travaille l'Avare comme je travaille un texte de Cadio, d'une certaine manière. Donc, voilà.
Et c'est ce que l'on peut vérifier au théâtre actuellement. Donc, dans Le Colonel des Zouaves, Un Mage en été et Providence, ça commence le 4 juin jusqu'au 9 à la MC 93 de Bobigny, dans le cadre du festival Manifeste de l'IRCAM. Vous ferez aussi deux intégrales.
Tout à fait. Merci. Samedi et dimanche.
Samedi et dimanche. Merci Laurent Poitrenaud. Merci Yvan Calberinck. On se quitte tout de suite avec de la pop baroque, des harmonies vocales, des barbes bien taillées. Fleet Foxes, groupe emblématique du mouvement hipster et sur France Inter.
I was following the eye, 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 was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow.
Un hymne hivernal, en fait, pour les Américains de Fleet Foxes, c'était en 2008. Le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 10 minutes. Dans 10 minutes avec ça.
Nous accueillons ce résultat avec joie.
La majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité.
C'est un magnifique message d'avenir.
Européenne en marche arrière, et oui, c'est le titre du débat. Dans 15 minutes après le journal, le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.